effectivement, ça fait déjà quelques années que je suis sur ces questions. Enfin, depuis les années 80. Puisqu'effectivement, j'étais, je crois, le premier et le seul à mettre en route un cours sur les violences dans le champ éducatif et les violences à l'école en 82-83. À Nanterre. Paris 10, Nanterre. Paris Ouest, Nanterre, La Défense, maintenant. Et alors, c'est vrai qu'une des caractéristiques du travail que j'ai pu mener, c'est d'être quand même très lié au terrain. C'est-à-dire que depuis même avant 80, j'ai pas mal circulé, alors évidemment autour de Nanterre en particulier, dans les Yvelines surtout, à Mantes-la-Jolie depuis les années 70, 10 à 15 ans, hein, 20 ans. Également au Mureaux, pendant près de 15 ans. J'ai été chargé de mission par le recteur Frémont. Dans les années 80, fin des années 80, 90, pendant plusieurs années. Et puis, c'est vrai que j'ai fondé un secteur de recherche alors, qui continue de fonctionner, qui s'appelle Crise École Terrain Sensible. Bon. Si vous voulez en savoir plus, depuis 6 mois, j'ai démarré un site. Il y a énormément de publications. Il doit y avoir déjà au moins 10, 12 livres. Consultable, télécopiable, tout ce que vous voulez. Et il y a 40 articles facilement, une dizaine de thèses qui portent sur ces questions, et un certain nombre de vidéos, de conférences que j'ai fait ici ou là, puisque je continue d'en faire au moins une par semaine. Alors, par exemple, j'étais en Belgique il y a 8 jours sur les questions du décrochage scolaire et sur les questions des violences institutionnelles, qui fait partie de ce que je vais dire aujourd'hui. Alors, je voyage pas mal depuis 10 ans, là. Surtout en Amérique latine, je reviens du Mexique, là. Je dis ça pas pour vous donner mon emploi du temps, simplement pour dire que quand on parle de violence, il suffit d'aller faire un tour dans quelques-uns de ces pays pour revenir tout à fait rassuré, pour le moment, sur ce qui se passe chez nous, parce que j'ai compté 96 morts en 8 jours où j'étais. Au Mexique. Avec l'impossibilité de sortir et le congrès gardé par les automitrailleuses. Donc, vous voyez, la violence à l'école. Il ne se pose pas la question là-bas. Alors, si je dis ça, c'est parce que je suis en train de finir un bouquin sur violence et mondialisation, et puis justement la place fondamentale de l'école dans tout ça. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les chefs d'établissement, les CPE aussi beaucoup, et je continue. Alors j'ai conçu mon propos comme ça en 3 parties en gros. Je ne sais pas si vous avez eu le. Non, le. Non, un programme. Alors le titre, c'est L'établissement scolaire comme cadre, gérer les comportements et les transgressions. Alors 3 parties. Hein. L'institutionnel contre l'établissement, une vie scolaire. Je vais les reprendre, bien sûr. Deuxième partie, violence à l'école et violence d'école. Troisième partie, l'établissement comme réseau symbolique. Bon, c'est une synthèse de multiples dimensions du travail que j'ai un peu indiqué dans les trois volets, on pourrait dire, qui ont fait mon travail. Alors c'est vrai, la pédagogie, les pédagogies institutionnelles, les violences et la violence à l'école, mais jusqu'aux violences institutionnelles, et la formation des maîtres, des CPE, etc. J'ai aussi été responsable de la formation des maîtres pendant quelques années à Nanterre. Donc les 3 parties, je reprends parce que je vois. L'institutionnel contre l'établissement, première partie. Deuxième partie, violence à l'école et violence d'école. Et troisième partie, l'établissement comme réseau symbolique. Alors toujours dans l'introduction. Alors, 2 petites indications d'information. Donc le site sur Internet, Jacques, simple, hein, Jacques-Pain, P-A-I-N, Jacques-Pain.fr. Donc énormément de choses qui complètent ce que je vais vous dire, y compris en particulier, il doit y avoir 3 ou 4 articles sur la vie scolaire et plusieurs sur les structures d'établissement, puis la violence évidemment. Alors jacques-pain.fr et par ailleurs, depuis ces années 80, j'ai monté une édition associative et bénévole, mais qui marche pas mal, qui s'appelle Matrice. Vous trouverez ça sur Internet aussi. On a publié 100 000 de livres et on a vendu 100 000 bouquins à peu près. Il y en a qui sont montés à 5, 6, 7 000 au fil du temps. Et vous trouvez à peu près l'essentiel de mes publications sur les violences à l'école, mais tout ce qui concerne, pour ceux que ça intéresse, la pédagogie institutionnelle est là. J'ai repris tous les titres épuisés et j'ai tous les titres qui paraissaient chez Maspero, ici ou là, etc. C'est là. Donc, vous pouvez le consulter, y compris sur mon site, il y a le catalogue page par page. Vous pouvez aller voir ça, si ça vous intéresse. Alors, deux présupposés, deux hypothèses, on va dire, qui vont guider mon propos. Je vais parler pas mal institution et institutionnel, hein, EL, ce que j'appelle l'institutionnel, moi, qui est fondamental. Comment on arrange les institutions, ça s'arrange, une institution. Et l'institution, c'est la nuit et le jour, hein, suivant ce qu'on en fait. Alors, première hypothèse, c'est les institutions sont des laboratoires sociaux. C'est pas compliqué, et c'est ce que je pense vraiment, c'est-à-dire suivant justement ce qu'on met en place, je pense là à un psychiatre de mes amis qui dans un texte dit « c'est de la micro-mécanique ». On pourrait dire « c'est de la micro-informatique aujourd'hui hein. ». Mais bon, ce qu'on va arranger, les instances, les dispositifs, tout ce qu'on met en place, je vais y venir, hein, les règles, la loi, règlement intérieur, le moindre geste, ça participe d'une, allez on va dire ça comme ça, d'une mise en scène, mais aussi d'une construction institutionnelle qui tient la route ou pas. Donc les institutions sont des laboratoires sociaux. Deuxièmement, la violence, la violence, elle est toujours interactive. C'est une interaction. C'est-à-dire, c'est une co-construction, je disais l'autre jour à Bruxelles. Elle est co-construite. Je ne connais pas de violence gratuite et jamais on n'a pu réussir à m'en faire part de violences gratuites. Il n'y a pas de violences gratuites, elles sont toujours liées à l'institution. Et l'institution installe les violences, et la violence s'installe à l'endroit où l'institution a son problème, ou ses failles, ou des failles. Alors ça, c'est assez facile à démontrer. Dans un des livres que j'ai publié il y a 25 ans, qui s'appelle « Intégrer la violence », avec Richard Elbrune, on a pris, je ne sais pas, 50-60 situations, les analyses mises à plat. Un travail intéressant pour vous, parce que nécessaire de mener ce travail dans un établissement. Vous prenez les situations de violence les plus caractéristiques, par exemple, des lieux où vous allez fonctionner. Et si vous les mettez bien à plat, vous avez 2 ans de prévention à la clé. Mais il faut prendre le temps, hein. Tout démonter, tout mettre à plat, pas tout seul. En parler, analyser, et une fois qu'on a tout ça, on tire les fils, vous avez des colonnes qui sortent toutes seules, ce que je peux faire tout de suite, ce que je vais faire dans 6 mois, et ce que je ferai l'an prochain. Et on peut fonctionner comme ça pour les 2 ans à venir, mais il faut avoir travaillé 2 mois à l'avance. Voilà, donc ce qui guide mon propos. Alors, premier point, l'institutionnel contre l'établissement, 2 points, une vie scolaire. Alors c'est vrai que le concept de vie scolaire a été beaucoup discuté. Vous savez probablement qu'on est les seuls en Europe, au monde, à développer ce concept de vie scolaire. On le trouve presque nulle part. Ce qui a ses tenants et ses aboutissants, vous le savez, puisqu'à la fois c'est quelque chose qui est fondamental et quand ça fonctionne, je pense là à un établissement que je connais où il y a 3 CPE, un établissement très difficile, mais c'est très bien articulé entre les 3. Ça s'articule bien tout ça avec la direction et la fonction de direction, ils sont 2. Et l'ensemble, ça fait un effet de synergie qui tient l'établissement, mais alors très nettement, on va dire, dans un calme relatif et un contrôle qui va toucher et stabilise, du coup, le corps professoral qui pour moitié est plutôt acquis, je dis moitié, c'est déjà bien, 60% est plutôt acquis à la politique de la direction et à la conduite de l'établissement. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que j'en ai un autre en tête, où j'étais il y a quelques mois, là, relativement tranquille, mais il y a des dissensions énormes entre les 3 CPE, ils sont 3 aussi là, et les 2 chefs d'établissement, si bien que, bon, ça produit des effets, on va dire, psychotiques, dans la gestion de l'établissement et des passages à l'acte qui sont amplifiés par ces dissensions. Donc ça, c'est un point important, mais vous le savez sans doute. Soigner l'équipe. Alors l'institutionnel contre l'établissement, une vie scolaire, ça veut dire quoi? Dans les pédagogies institutionnelles, on insiste beaucoup. Alors, pour un psychiatre du mouvement qui s'appelle François Tosquelliès, qui est mort il y a 20 ans, qui était celui qu'on appelait, nous, on l'appelait Lacan des institutions. Il a énormément publié aussi, il a vraiment suggéré des institutions psychiatriques, mais ce que je me suis attaché à faire pendant 30 ans, c'est reprendre ce qui se fait de mieux dans toutes les institutions. Et puis, j'appelle ça alors je le transversalise, j'appelle ça la transposition. Et je me dis, bon, bah d'accord, ça c'était dans un hôpital psychiatrique, un hôpital de jour, un foyer de l'éducation surveillée à l'époque, ou maintenant de la PJJ. Et qu'est-ce que j'en ferais dans un collège de banlieue, par exemple à Trappes, je vais vous en parler, Gagarine, que j'ai suivi pendant 9 ans. Ou au collège Clémenceau, Valfourie, que j'ai suivi pendant 9 ans. Ou au Mureaux, que j'ai suivi pendant 12 ans, toute la périphérie scolaire. Le comité de la ZEP, le groupe, etc. Et en particulier le lycée professionnel avec mon ami Michel Navarro, chef d'établissement, qui a d'ailleurs fait une thèse avec moi en 2002 là-dessus. Alors l'institutionnel, ce qu'on appelle nous l'institutionnel, c'est, selon Tosquelliès, c'est il joue l'institution contre l'établissement. C'est-à-dire il ne faut pas confondre institution, dit-il, institution et établissement. Pourquoi? Parce qu'il prend une métaphore toute simple, hein. Comme on dit, ma fille s'est établie, je me suis établi, on s'est établi. L'établissement, ben vous le savez, hein, j'ai consulté le guide Éducation nationale, prévention de la violence pour un diagnostic de sécurité d'un établissement scolaire. Bon, 60, 80%, ça concerne les murs, le bâti. C'est vrai que c'est important. Les fenêtres, ben par exemple, dans cet amphi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et s'il y a des violences ici, on sait par où elles vont fonctionner dans la structure qui est celle de cette salle, avec seulement deux portes. En imaginant qu'il y en ait une qui soit fermée, à clé, qu'il n'y en ait plus qu'une autre. Bon, alors vous trouvez ça là, et c'est vrai que c'est ça qu'il appelle l'établissement. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en occuper, au contraire. Mais la structure de l'établissement, elle est mue par ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire par l'institution. Et l'institution, c'est l'institutionnalisation, bah, par exemple, de la réunion de direction, de la réunion des CPE, de la réunion des professeurs principaux. De réunions, on va dire par exemple des professeurs principaux de langue, des professeurs principaux d'une même division, etc., sur plusieurs années, etc. Donc le type de réunion institutionnelle que vous allez mettre en place, comme je le disais au début, c'est la nuit et le jour, et c'est vrai que tout peut passer par là, quoi. Par exemple, une des grandes constantes de la violence que j'indique en passant, mais ça je crois que. Oui, mon expérience ne me l'a pas démenti au fil du temps. C'est que par exemple, si vous avez des problèmes ou si vous avez des violences, la question qui se pose, c'est pas s'arracher les cheveux ou éventuellement d'appeler la police, pourquoi pas. Mais en même temps, de se dire, bon, pour que ça ne se reproduise pas, qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je mets en place qui va prévenir la chose et qui va fixer la violence? Alors sur la violence dans l'institutionnel, hein, Tosquelliès, Jean Houry, Fernand Houry, le fondateur de la pédagogie institutionnelle, on a une philosophie assez simple. La violence, on ne peut pas l'éradiquer. La violence, elle sera toujours là. Elle est là depuis le début de l'humanité. Je faisais des cours, par exemple, sur la Bible dans mon système de cours. C'est impressionnant ce qu'il y a dans l'histoire, dans les livres sacrés, dans la violence, elle est omniprésente. Je vous ai dit, je reviens du Mexique. Le Mexique. La lutte entre les narcos et l'armée, mais c'est tous les jours et dans les rues. Hein. À 9 h du soir, vous sortez plus, quoi. Donc c'est vrai que là, vous êtes dans, c'est un autre monde. Et c'est vrai que cette violence, donc la seule finalement réponse qu'on puisse y apporter au Brésil, au Mexique, en France ou ailleurs, c'est la métabolisation, c'est-à-dire métaboliser la violence. C'est un mot qu'on employait beaucoup, que j'emploie toujours. Métaboliser, ça veut dire la faire passer dans quelque chose. Alors, les instances que j'ai indiquées, mais ça peut être aussi des activités. Ça peut être aller chercher la violence. Alors, on peut travailler par et à travers le sport, mais aussi beaucoup la parole. Une des questions centrales qui va se poser dans la gestion institutionnelle d'un établissement, c'est la place de la parole. C'est là que va se développer ou non de l'analyse. Et c'est vrai que dire les choses. Ça va être très important parce que les dires, c'est déjà les fixer. On sait qu'elles existent. On les qualifie. Même si, apparemment, ça ne fait pas d'effet sur le comportement, par exemple, d'un groupe ou de quelques personnes particulièrement agitées dans l'établissement. Ils savent, entre guillemets, qu'ils ont été, entre guillemets, repérés. L'air de rien. Alors, c'est ça l'institutionnel. Donc, c'est l'institution, finalement, ça peut beaucoup bouger. Et dans un lieu quel qu'il soit, y compris cet amphi, on peut imaginer quand même une certaine plasticité dans la manière de fonctionner. Si on voulait faire du travail par groupe, faudrait bien qu'on trouve une solution. Que par exemple, le premier et le deuxième rang se retournent de façon à faire un petit groupe de 2, 4, 6, 8, 10 pour discuter à 10 et partout comme ça, pour faire un panel et faire remonter l'information, pour qu'on puisse avoir des échanges sur ce que vous avez entendu. Amphi ou pas, il faudrait bien qu'on s'y mette. Donc on trouverait. C'est ça l'institutionnel. C'est-à-dire, si on prend alors c'est vrai qu'il faut savoir exactement ce qui se passe dans l'état physique, comme ils disent, de l'établissement, pour en faire un diagnostic. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que, une fois que vous avez vu la géographie, comme ils disent, les classements, les classes, les horaires de fonctionnement, l'absentéisme, il faut le savoir aussi. Quand vous avez cet ensemble de choses, alors c'est vrai qu'après, vous avez déjà une vision mentale importante pour un chef d'établissement. S'il y en a un dans l'établissement qui doit avoir une vision mentale de l'établissement, c'est lui. Pour moi, c'est très clair. C'est-à-dire que l'établissement, je vais vous dire ça comme ça, mais pas trop non plus, hein, fait partie de lui. Mais pas trop. Parce que si l'établissement prend des coups, il les prend avec. Donc, il y a un travail de disjonction émotionnelle à faire, mais ceci dit, c'est là que ça se passe, c'est-à-dire à quoi on pense, quoi. Et par exemple, est-ce que à ce moment, à cette heure-ci, il est 8h57, où est la cinquième d'eux? Avec qui? Et qu'est-ce qu'ils font à peu près? Bon. Et dans le couloir entre la cinquième d'eux et la quatrième trois, il y a un grand couloir, un peu trop grand, qui évidemment est très encourageant, on a envie de courir, et c'est ce qui se passe. Donc, bon, il va y avoir dans quelques minutes une suspension. Est-ce qu'on a bien pensé à mettre quelqu'un dans le croisement des couloirs pour éviter qu'il y ait des problèmes? 3 minutes. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est de l'analyse institutionnelle, ni plus ni moins. Et ça fait appel à la dynamique des groupes, hein. Ça veut dire, c'est un peu ambitieux tout ce que je vais vous dire, alors j'y vais carrément au maximum, hein. C'est de la psychologie sociale, de la dynamique des groupes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a intérêt à voir ça sous l'angle de la dynamique des groupes et de ce qu'on appelle, nous, le collectif. Alors, il ne faut pas confondre les groupes et le collectif. Des groupes, il y en a dans tous les établissements scolaires. Vous savez, quand vous allez dans une classe et vous dites, tiens, mettez-vous comme vous voulez, on va faire. Mais comme ils veulent, hein. Mettez-vous comme vous voulez, on va faire une photo. Vous faites votre photo, et sur la photo, vous avez les sous-groupes latents, comme on dit, de la classe. C'est-à-dire, ils se sont mis par affinité spontanément. Donc, vous avez toutes les bandes en photo de tous les quartiers. Il n'y a pas besoin de leur dire où vous êtes. Mettez-vous là, je prends une photo, ça y est, ils sont dessus. Alors, ça ne vous sert pas, évidemment, à envoyer la police dans le quartier et à les repérer du matin au soir, comme ça peut se faire parfois, hélas, ça sert à rien. Ça renforce l'étiquetage et le labeling, comme on dit, mais ça sert à dire, tiens, ces 3-4-là qui justement posent des problèmes dans cette classe sont toujours ensemble. Alors, comme ils ont découvert il n'y a pas longtemps, la moindre des choses, ça serait qu'ils ne soient pas tous les quatre les uns à côté des autres, ou peut-être même d'une année sur l'autre, qu'ils ne soient pas dans les mêmes classes. Bon, des petites choses, vous voyez, comme ça, qu'on peut voir quand on met à plat la structure d'un établissement ou des classes. Et des classes. Alors là, je parle des groupes. Alors, faire qu'un établissement soit dans la dimension du collectif, c'est un stade au-dessus. C'est le stade où ces groupes d'élèves, ces groupes de profs, parce que c'est la même chose pour les profs, hein. Mettez-vous ensemble, allez-y, je fais une photo, vous allez avoir les bandes aussi. Sans problème. J'ai fait une très longue enquête sur en particulier les mureaux, enfin, ça portait sur plusieurs établissements, mais il y avait les mureaux en particulier, sur la prise de fonction dans les années 90, 2-3 ans de recherche. Et j'avais étonné tout le monde, et je m'étais étonné moi-même, parce que je connaissais bien le collège Jules Verne des mureaux, mais j'ai découvert au collège Jules Verne, par exemple, un groupe de 15 enseignants qui étaient là depuis très longtemps, mais qui était très heureux d'être au collège Jules Verne, qui, comme me disait tout le temps le recteur, est quand même le premier au hit parade de la violence dans l'académie. Et c'était toujours les trois premiers, toujours les trois mêmes établissements qui étaient au hit parade. Les Mureaux, Poissy, enfin bon. Quand on va voir et qu'on regarde un peu ce qui se passe, pour les raisons que j'ai indiquées au début, on a vite compris pourquoi. Hein. La synergie éclatée, les groupes dominent sur le collectif, les procédures, on ne sait plus trop où elles sont. Le règlement intérieur, si on sollicite quelqu'un pour qu'il en parle, il ne se souvient plus de quoi il s'agit. Puis parfois, il peut être très long, le règlement intérieur, ce n'est pas le problème. Et puis il y a les chartes à côté du règlement intérieur, il y en a ou il n'y en a pas. Mais une charte, ça peut être simple, c'est simple normalement. Je vais y venir. Donc le collectif, c'est le moment où cet ensemble humain fonctionne avec une certaine synergie, comme j'ai indiqué tout à l'heure, une certaine énergie commune aussi, et où les choses sont à peu près claires. Il y a des problèmes, mais on les voit venir, ou quand ils arrivent, on peut les prendre en charge, et on va très vite. Ce que j'ai appris, par exemple, au Mureaux, comme à Mantes, surtout à Mantes d'ailleurs, à Clémenceau, j'ai suivi mais presque jour par jour pendant longtemps, c'est quand il y a un problème le matin, il faut le résoudre avant midi, et quand il y a un problème dans la matinée, il faut le résoudre avant 16 heures. Jamais laisser passer une journée de plus. J'avais appelé ça le traitement direct, mais pédagogique. Le traitement pédagogique direct. Vous savez ce que c'est que le traitement direct, je suppose, qui existe depuis les années 90. C'est le fait qu'on avait découvert que, bon, les événements violents dans les établissements, en particulier, mais dans les quartiers, étaient sanctionnés. Mais vous savez, les jeunes passaient parfois en jugement, c'était souvent des jeunes. Mais ils passaient en jugement un an après, des fois. Donc c'était complètement aberrant. Donc le traitement direct, c'est Rosenzweig et d'autres qui étaient là derrière, à Bobigny. Ça marchait plutôt bien. C'était de, bon, comparution, parution, traitement de la chose dans les jours qui viennent. 48 heures, une semaine au maximum. Et ça payait. Rosenzweig démontre largement dans plusieurs articles que ça lève la récidive, quand même. Mais il faut parler, hein. C'est un juge des enfants. Donc il y a des sanctions, point, des avertissements, tout ce que vous voulez. Alors moi, je suis complètement là-dedans, sans souci, j'ai pas d'état d'âme. Hein. Les violences doivent être sanctionnées au niveau où elles se posent. Et par conséquent, le traitement direct, c'est ça. Mais il y a aussi ce que je viens d'indiquer, le traitement pédagogique direct. C'est-à-dire, il y a un événement, vous appelez pas la police tous les quarts d'heure. Donc ça veut dire que vous avez des transgressions, par exemple, on va y venir aussi. Et dans le domaine des transgressions, ça doit être traité. Donc ça veut dire qu'il faut avoir pensé une échelle de sanctions qui renvoie à une échelle de violence. Il faut avoir ça en tête aussi pour pouvoir répondre. Que ça soit à peu près clair, ça peut être dans le carnet. J'ai un carnet de correspondance du collège Gagarine ici, qui a 20 ans. C'était ça à peu près, quoi. Ça donne dans l'institutionnel un des principes de l'institutionnel que nous mettons en avant, ce qu'on appelle les 4 L. On a des formules comme ça. Les 4 L. Alors 4 L, c'est pas la voiture, mais presque, hein, à l'époque, ça date des 4 L, des vrais 4 L. C'est parce qu'il y avait 3 L, et il y a un copain un jour qui a dit, pourquoi pas 4? Alors les 4 L, c'est quoi? Un truc simple, mais qui marche, y compris dans les micro-institutions comme dans un établissement. Des lieux, des limites, des lois. Ça, c'était les 3 L. Des lieux, des limites, des lois. Il faut qu'il y ait, quoi qu'il arrive. Alors si c'est une réunion, si c'est une salle de réunion, si c'est une partie de bâtiment, si ce sont les salles de classe, si c'est la cantine, le restaurant, vous l'appellerez comme vous voudrez, l'internat, s'il y en a un, il y a des lieux, il y a des limites, ils ont des limites, et il y a des lois qui fonctionnent et qui sont opératoires pour ce lieu-là, pas nécessairement pour la cour. La cour, c'est un lieu, les toilettes aussi. Et il y a des 4 L comme ça un peu partout. Parce que le 4e L, c'est des lieux, des limites, des lois, et le 4e L, c'est que ces lieux, limites et lois produisent un langage commun. Je vais jusqu'à dire maintenant, c'est de l'anthropologie, si vous voulez. Lieu, limite, loi, c'est un langage commun, c'est un langage humain. C'est le langage de l'être humain. On a des lieux, des limites et des lois. Bon, on va remonter à Rousseau. Hein. Vous savez, les histoires de la fondation de la société, finalement. On n'a pas besoin de beaucoup de lois avec un grand L. Ta liberté s'arrête ou commence la mienne? Ma liberté s'arrête ou commence la tienne? Avec ça, vous faites tout. Dans une classe, dans la cour, dans les toilettes, n'importe où. Et puis ça nous amène très vite, on le verra hein, pour Gagarine, ça nous amène très vite sur la notion de respect qu'on a commencé dans nos interventions à diffuser vers 87, 88, 89. Et ça a été repris par le ministère par la suite. Entre 90 et 96, il y a 18 groupes de recherche qui ont travaillé en France pour le ministère, ministère d'éducation nationale et de la police, justice, ministère de l'Intérieur, qui ont travaillé sur les établissements scolaires et tous les problèmes qu'on peut imaginer, c'est-à-dire depuis l'adolescent caractériel jusqu'à, justement, les diagnostics de sécurité, en passant par le catalogue des violences, et je vais y venir. Alors, des lieux, des limites, des lois, le langage commun. Le langage commun, c'est ça. Il faut vraiment croire, et vous verrez que ça fonctionne, mais vous l'avez déjà vu sans doute, c'est la dimension, c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça, c'est le cadrage symbolique. Le cadrage symbolique, nous sommes ainsi faits. Et le plus grand violent ou les plus perturbés d'entre nous ne résistent pas au cadre symbolique. C'est pas l'heure de faire ça, c'est pour plus tard. Tu t'assieds, là j'ai un truc à faire, tu me laisses terminer, on parlera dans 20 minutes. Tu me laisses finir mon cours, mais si tu veux bien, à la fin du cours, on parlera tous les deux, mais là, il faut que je finisse le cours. Bon, c'est ça, cette disjonction de lieux, cette opérationnalisation des lieux, qui fait que chacun est remis à sa place, quoi. Et que moi, je suis enseignant, ou chef d'établissement, ou CPE, et que je fais mon travail, point. Et que l'autre, il a à faire le sien. Alors après, il y a toutes les transgressions qu'on veut, parce qu'effectivement, quand cet ordre est dans le symbolique, il y a de la transgression, mais la transgression, elle se heurte, évidemment, de plein fouet au symbolique. Et donc, elle est épinglée, étiquetée, nommée, analysée, qualifiée, enfin, etc. Alors, ça renvoie, vous le voyez bien, à la manière dont on va écrire le règlement intérieur, qui doit être le plus simple possible. Bon, je participe à je ne sais combien de règlements intérieurs. Il y a plusieurs versions, mais je vous le dis au passage. Il y a des règlements intérieurs qui sont parachutés, qui tombent comme ça, vous le savez, comme les projets d'établissement. Et puis il y en a d'autres, là je pense à Bourges, il m'est arrivé 2 ans de suite, on a mis 2 ans. Comme à Clémenceau d'ailleurs, Mantes, 2 ans pour construire le règlement intérieur et le projet. Parce que c'était du collectif. En consultant tout le monde, en discutant avec les classes, en renvoyant des choses, en faisant réfléchir sur un certain nombre de points. Et puis par exemple, on peut finir, ça a été le cas à Bourges. On a fini dans la salle des fêtes avec des élus municipaux, les parents, avec la lecture et la proclamation du règlement intérieur devant 250 personnes. Et on a félicité les élèves, les enseignants, tout le monde qui avait participé à ce mouvement. C'était un collège difficile sur les hauteurs de Bourges qui passait par beaucoup de problèmes. Et c'est vrai qu'avec 2-3 de ces techniques qui étaient nécessitées plutôt par l'état des lieux, on a changé la vie scolaire en 2 ans. Mais alors, ça ne tient pas en 15 ans, hein. Faut tous les ans s'y remettre, etc. Alors, règlement intérieur, vous en tirez une charte. Et c'est vrai que si vous en tirez une charte, ça peut être assez simple. Hein. Vous voyez par exemple là, cette feuille jaune, c'était le contrat de vie du collège Gagarine. Ça tient sur une page. Hein. 91. Au collège, nous voulons travailler en paix. Alors, les élèves, les adultes, les parents. Alors, ça peut paraître formel, hein. C'était passé par toutes les classes. Hein. Nous nous engageons donc à nous respecter les uns les autres. On avait sorti ce terme de respect qui a fait florès et qu'on est retrouvé, on a retrouvé très rapidement dans le début des années 90 dans beaucoup d'endroits. Alors, non au racisme, au mépris, à la violence, etc., ou au racket. Observer la loi. La loi Gagarine, c'est le règlement, simple. Être solidaire, ça veut dire qu'en même temps, être solidaire, ça veut dire, en cas de problème, on en parle, pour comprendre et trouver une solution. Ça veut dire qu'on peut appliquer toutes les sanctions, y compris les punitions, c'est pas la même chose, qu'on veut. Il faut qu'il y ait des lieux et des temps, des espaces, y compris pour les parents, dans le dispositif, où on puisse être interpellé. Donc vous pouvez y aller, même brutalement. La loi telle qu'elle est, elle peut paraître brutale, mais c'est comme ça. Par contre, si vous avez ces instances d'écoute, c'est vrai que vous introduisez une articulation parole-sanction qui va être très positive dans la gestion quotidienne des choses. Les instances de parole que j'indiquais tout à l'heure. Donc vous voyez, à un moment, je travaillais avec Toscaliès, mais je l'ai fait aussi avec Jean Houry, par exemple. Quand je fais une intervention, je finis cette première partie comme ça. Quand je fais une intervention, on me propose une intervention, je demande à l'établissement, si c'est un établissement, ou ça peut être autre chose, hein. Ça peut être, je ne sais pas moi, une prison. Bon, je demande ce qui s'est passé. J'ai vu que le diagnostic de sécurité portait sur 3 ans. Pourquoi pas? Moi, je demande 2 ans. Je demande tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas dans l'établissement physiquement, d'abord. Je demande tout ce qui s'est passé depuis 2 ans. Je demande les conseils de discipline, toutes les sanctions, l'absentéisme y compris des enseignants. Je demande à peu près tout ce qui peut être saisi en termes de chiffres et de structures. Bon, je demande ce qui s'est passé à l'infirmerie, les accidents, les incidents, etc. Et puis quand j'ai cet ensemble de choses, je travaille là-dessus et je fais un pronostic. Et puis alors là, je vais dans l'établissement. Je demande une réunion générale, et je discute avec la direction, puis je rencontre les enseignants, une demi-journée. Et c'est vrai qu'après ce que j'ai entendu, lu, et tout ce que j'écoute, j'entends aussi là, dans cette demi-journée, c'est vrai qu'on peut assez vite avoir un tableau. Un tableau assez proche de la réalité, quoi. Avec y compris les lignes de, on va dire, les lignes de d'effondrement du système éventuel, les lignes de rupture ou de fracture. Alors, ce que je vous dis là, on le fait en tant qu'intervenant et en tant que groupe assez souvent, mais vous pouvez le faire avec des groupes extérieurs, vous pouvez le faire seul aussi en partie. C'est-à-dire avec votre direction, avec d'autres, personne ne vous empêche de réfléchir, je ne sais pas, 2 ou 3 fois 45 minutes par semaine sur votre établissement, ce qui s'y joue, ce qui se passe, d'avoir un groupe, je pense à un groupe qui s'appelait, fut un temps, Grigny la Grande Borne, qui s'appelait Charnière, et le groupe Charnière se réunissait 3 fois 45 minutes, entre midi et 2, pendant la semaine, c'était juste sur les événements, ce qui se passait. Alors ça indiquait que telle classe, il y avait dans telle classe, tel groupe, il y avait ou un tel, en particulier un gamin, qui allait mal. Mais on savait que dans le quartier où il était, dans sa famille, alors donc, bon, vigilance par rapport à cette classe. Et ça remontait, puis on renvoyait comme ça des consignes, avec des choses simples hein, qu'on appelle dans l'institutionnel, c'est la théorie des constellations, c'est-à-dire que avant de s'occuper d'un problème, s'il n'est pas encore grave, quand il commence à s'installer ce problème, on le repère et on agit sur l'environnement du problème. Ben, sur la classe, sur les groupes qui sont autour du problème, si c'est un gamin qui pète les plombs, on va organiser des trucs un peu autour de lui ou une chose très simple. On va faire qu'à partir du lendemain, bon, par exemple, soit le chef d'établissement ou un CPE, ben, il va peut-être, mais sans le faire d'une manière ostensible, se rapprocher un peu plus de lui. Puis quand il arrive à l'établissement, dans l'établissement, il arrive dans la cour, il va lui dire « ça va Stéphane ce matin ?»« Bonjour. » L'autre, ah, pourquoi il me dit bonjour ? Enfin, bon. Que me dit-il ? C'est aussi de ces années-là qu'on a commencé à... Ça, c'était au Blanc-Ménil, dans des interventions au Blanc-Ménil dans les années 80, à préconiser que certains, que les chefs d'établissement dans des zones sensibles, ou les CPE, mais sortent de l'établissement y compris, soit à la porte ou sortent. Donc, un des chefs d'établissement avec qui je travaillais là-bas au Blanc-Ménil, il allait jusque dans un rayon de 150 mètres. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un quartier, des tours, et il y avait une petite épicerie, et il se passait des trucs à l'épicerie, y compris des trucs un peu difficiles. Donc tous les jours, il allait faire son tour à l'épicerie. Alors l'épicier était devenu une sorte d'informateur, mais au vu et au su de tout le monde. Hein. Il disait, j'ai vu, il y a les 2 gamins qui... Bon, il y avait eu de la fauche au début, puis tout ça s'est stabilisé. Et c'est vrai que cette espèce de visualisation mentale du quartier et des abords, c'est un lycée professionnel, donc les gamins venaient de 20, 30, 40, 50... 80 km des fois, hein. C'est pas pareil qu'un collège, hein. On n'est pas sur la même unité de mental. Alors, mais c'est aussi important de savoir où on va, ce qu'on fait. Et de, donc, ce que je viens de dire, par exemple, c'est ça les constellations, nommer le problème et s'adresser à lui. Et si c'est quelqu'un qui pose problème, s'adresser à lui. Donc, il faut repérer ça très vite. Toujours l'histoire des le matin, l'après-midi, dans la journée. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est jamais que pédagogie et analyse institutionnelle fine. Mais on ne peut jamais faire ça tout seul. Hein. C'est-à-dire que seul, bon, moi j'interviens pas seul non plus, je suis toujours en groupe parce que ça se partage les informations, puis on peut se planter. Alors deuxième partie, violence à l'école et violence d'école. C'est vrai que violence à l'école et violence d'école, je vous dis très rapidement, c'est sur le site, hein. J'ai passé des années et des années, et je continue, à définir l'agression, l'agressivité, la violence, parce que je trouve que c'est important de savoir de quoi on parle. Maintenant, un peu trop de chercheurs qui m'énervent un peu, d'ailleurs, je le dis. Je lisais encore dans un bouquin que j'aime bien, hein, quelqu'un que j'aime bien, il n'y a pas longtemps, qui commence, je ne chercherai pas à définir la violence, beaucoup s'y sont risqués, et on ne sait plus trop bien ce que c'est maintenant. Donc la violence, c'est ce que chacun ressent comme violent. Ah ben, on est bien avec ça. On est bien avec ça, parce que chacun ressent comme violent, ça peut être, et je respecte, hein, c'est le point de départ, subjectif. Bon, il y a certainement ici des personnes qui supportent mal, j'avais une copine comme ça, qui était enseignante, elle ne supportait pas le moindre gros mot. Elle entendait merde à côté d'elle, ça n'allait pas du tout. Les gamins, comme ils se parlaient, elle piquait des vraies crises. Elle leur disait, mais vous êtes dans une bauge à cochons, vous êtes des cochons, vous mangez de la merde toute la journée. Et elle a fait une telle scène quotidienne à sa classe que ça s'est arrêté. C'est-à-dire qu'ils ont fini, alors évidemment ça se passait dehors, hein, mais dans la classe, plus un mot, plus haut que l'autre, tout ça, et je les avais interviewés, ils me disaient, ah ben, ici on parle bien parce qu'on est obligé, tu ne supportes rien. Alors, un des leaders qui me disait ça, une grande blonde, les yeux bleus, qui était là, elle entendait, mais un mot de travers, ça y était, elle était en crise. Donc, comme ils en avaient marre des crises, ils avaient arrêté de s'insulter dans la classe. C'est celle-là qui a fait très fort, où je la raconte toujours, celle-là, parce qu'elle est quand même drôle. Comme ils mangeaient de la merde tous les jours, elle en avait un peu marre. C'était une classe, alors vraiment, c'était la classe où on mettait tous les rebuts entre eux. C'est elle qui le disait, hein, de toutes les classes et de la région, dans un internat scolaire, bon, bien connu, que je ne nommerai pas, qui produit d'ailleurs toujours les mêmes effets 20 ans après, qui a failli être fermé plusieurs fois, mais bon. Alors, vous savez pas ce qu'elle leur a fait un jour, elle a dit, ah ben, puisque vous aimez ça, on va voir. Elle les a emmenés en visite guidée à Conflans-Sainte-Honorine, visiter les parcs à merde. Vous savez que toute la merde de la région parisienne est là-bas, à Conflans, il y a 3 km² de merde. Une journée entière à visiter avec un guide, hein. La merde, d'où elle vient, qu'est-ce qu'on en fait, les bacs de merde, les trucs, ça circule, ça monte, ça descend. Il y en avait partout. Alors là, ils étaient atterrés, anéantis. Elle a eu le silence dans la classe pendant 8 jours, elle m'a dit. J'ai plus jamais rien entendu pendant 8 jours. Ça a été un tournant mental, là aussi, je crois. Alors, mais c'était pas mal, ça m'avait bien plu à l'époque. Je suivais le groupe, alors elle était dans un groupe de 5 enseignants, et on s'est vus pendant 7 ans quand même, hein. On se voyait pendant 7 ans, 5 heures, tous les mois et demi. 7 ans, pour travailler sur les classes. Et ça a eu des résultats tout à fait passionnants. Bah d'ailleurs, tiens, Bruno Robe, il n'est pas encore passé. Eh bien, Bruno Robe était dans ce groupe pendant 7 ans avec moi. Maintenant, il est maître de conf, bon, il était dans ce fameux groupe. Il n'était pas à Conflans, lui, il était un peu, bon, un peu plus loin. Alors la violence, je me suis quand même escrimé, je vais vous donner alors très rapidement 2 ou 3 définitions. La violence, ça vient de vis, V-I-S, hein, is en sanskrit. Donc c'est la force, c'est l'usage de la force. C'est ce sur quoi tout le monde s'accorde. L'étymologie, l'usage de la force, mais vous voyez bien qu'on peut aller tout de suite ailleurs. Hein. L'usage de la force, laquelle? Musculaire, oui, c'est ça au départ. Mais psychologique, ça peut être aussi. Donc on va glisser vers autre chose. Alors, l'usage de la force, et je fais très attention au seuil de rupture. Je suis assez proche du code pénal d'ailleurs, et je reprends là la citation de Jacques Seloss ou de et de Richard Elbrune. La violence, quand même, il y a un seuil. Hein, cet usage de la force, il y a un seuil qui fait que le seuil va porter sur l'atteinte de l'autre. C'est une atteinte, mais j'ajoute moi consciente, ce que j'appelle violence, c'est une démarche, c'est une atteinte consciente de l'autre. C'est-à-dire, il y a quand même quelque chose qui va être entre l'accident et la préméditation, hein, si vous prenez le code pénal. Et donc, à partir du moment où cette conduite transgressive, par exemple, s'installe dans les phénomènes de violence, il faut savoir que c'est toujours possible, parce qu'il faut savoir que la violence, vous le savez, la violence peut payer. C'est-à-dire, si vous avez une certaine détermination, une certaine force physique, ou même un certain charisme de manipulation, de groupe, ben, vous pouvez vous servir de la violence pour vous faire une place à l'école ou ailleurs ou dans les quartiers. Hein. Ça marche très très bien. Et une fois que vous avez votre place, ben, vous continuez avec le même système. Vous laissez planer des menaces, des angoisses, vous en abusez. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans ce que les criminologues appellent une carrière violente. Et on pourrait définir la violence comme je la définis là, une pathologie de l'agressivité. Parce que l'agressivité, après tout, hein, c'est le fait de agrédir, c'est se lever, marcher vers quelque chose, vers quelqu'un. L'agression, au départ, étymologiquement. Donc c'est jamais que l'être humain, dans sa fonction sténique, fondamentale. Quoi. Il faut une certaine agressivité. Ce qui distingue l'animal de l'homme, c'est le fait qu'il s'est redressé. Jean-Didier Vincent explique ça très bien. Il s'est redressé. Alors si vous redressez, réfléchissez un truc très simple. Ça dégage le regard, ça expose la poitrine. Donc on est montré, mais on est vu, mais on voit. Et donc le regard va être capital. Dans les affrontements avec les groupes, les intimidations, ça va jouer beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait de son regard? Ce qui d'ailleurs renvoie, par exemple, quant au chef d'établissement, à la façon dont on arrive dans un groupe, dont on arrive dans une classe, dont on parle. En regardant pas, et en regardant comment. Tout ça joue, là, l'air de rien. Alors attention, il ne faut pas avoir son calepin en disant « Attention, maintenant je relève la tête. » Deux, j'ouvre les yeux. Non. Il y a des trucs qui se mettent en place tout doucement, quoi. Hein. Alors, il y a une règle. Hein. Le plus que vous êtes, comme vous êtes. Assez simple. Vous n'allez pas pouvoir jouer à Rambo si vous êtes moi ou... Bon, on va faire autre chose. On va faire comme on est, quoi. Mais bien dedans, bien tranquille. Et on y va comme ça. C'est-à-dire que, bon, il peut se passer quelque chose. L'autre, il nous interpelle, bah... On s'assied, on discute, puis on voit. Donc la violence, c'est une pathologie de l'agressivité. Et en réfléchissant à tout ça, et en particulier dans les périodes de recherche que je vous ai indiquées, surtout en Angleterre, hein. J'étais pendant 5 ans en Angleterre sans arrêt, beaucoup, en Allemagne aussi, enfin je fais une comparaison Allemagne, Angleterre, France à l'époque, puis après je l'ai étendu à l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, enfin bon, toujours dans les endroits chauds, moi je sais pas, je suis souvent déformé dans ce que je raconte, parce que je connais presque pas d'établissement tranquille, j'y vais pas. Ça s'est trouvé comme ça. Mais en général, je vais dans des trucs, bon, assez compliqués. Et ce que j'ai appris avec les Anglais, c'est à introduire cette dimension qu'on n'avait pas du tout maîtrisée en France, qu'on appelle maintenant les violences psychologiques, et qui, en fait, appartient, cette dimension, à tout ce qu'on va dire maintenant qui sort un peu du code pénal et qui va vers les violences d'institution, ce que j'appelle les violences d'attitude. Les violences, y compris de rétorsion, si vous voulez. Et je vais vous donner une échelle que j'ai mise au point. Mais ça m'a amené, en reprenant les Anglais, et un Anglais en particulier, Peter Smith, qui est un des leaders, oui, de, anglais, du travail sur les violences à l'école, avec un autre que j'ai fait traduire. J'ai fait traduire son principal livre, il n'y en a qu'un d'ailleurs, Dan Olveus, qui lui s'occupe de violences à l'école depuis les années 70. Hein, un Européen. Quand j'ai contacté tous ces gens-là, il y avait une liste de 52 noms, pas un Français. C'est encore le cas. Hein. Enfin, il y a moi qui suis rentré dans leur 53e, mais il n'y avait aucun Français. Et ces gens-là, en particulier autour de Dan Olveus, travaillent sur les violences à l'école mais depuis 30 ans. Avec des trucs où on est, nous, des enfants de cœur à côté. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont des campagnes de prévention, mais qui touchent 60 000 élèves. Qui touchent, par exemple, toute l'Écosse à travailler 5 ans, l'Écosse tout entière, hein, a travaillé 5 ans sur un programme de prévention. Dan Olveus a fait des programmes qui ont été achetés par les États-Unis, et je suis allé au Japon en 2006, qui sait que j'ai retrouvé Dan Olveus. Alors il a écrit un bouquin que j'ai fait traduire ESF. En anglais c'est bullying, alors c'est pas violence, vous voyez. Ça aussi il faut y penser, les diffractions culturelles. Ils ne parlent pas de violence à l'école. Vous dites en anglais violence à l'école, ils ne comprennent pas. Bullying, B-U-2-L-Y-I-N-G, bullying, bousculade, etc. Intimidation, on pourrait dire brimade, intimidation. L'équivalent du mobbing en entreprise. Hein. Et on est proche des violences institutionnelles, y compris par le bullying. Donc bullying, deux points, what we know, what we can do. Bon, on a traduit ça, là. J'arrivais pas à trouver d'équivalent de bullying, si bien que j'ai fini par employer le terme, mais entre chercheurs, hein. On avait trouvé ça très bien, mais bon. Le terme de malmenance. Parce que j'avais trouvé rien d'autre. Le plus proche, c'est donc brimade ou intimidation. Hein, on dit plutôt intimidation maintenant. Et ça nous a introduit, encore une fois, aux violences institutionnelles. Mais l'éditeur, c'est Mérieux qui dirigeait la collection, c'est vrai qu'il ne savait plus trop. Alors à la fin, ils ont traduit, vous voyez, bullying par Brutalité, violence et harcèlement, les trois. Mais c'est intéressant d'avoir ça en tête, parce que c'est ça qui vous concerne. Ce n'est pas tellement les problèmes de police, c'est le problème de la police. J'ai toujours bien aimé les Anglais pour ça. Vous avez un gamin qui arrive avec un... Je prends même pas un revolver. Qui arrive avec un cran d'arrêt. Bah, c'est une affaire de police, point. Il n'y a pas à discuter. 25 ans. Ça se traite par la police, point. Terminé. L'arme blanche, tout ce qui participe du code pénal, du premier, on va dire, volet pénal, c'est une affaire de police. Bon. Les menaces, l'extorsion de raquettes, etc. Mais quand vous passez, alors je suis déjà un peu dans mon échelle là, vers le deuxième volet, vous rentrez dans des choses beaucoup plus subtiles, hein, qui sont de l'ordre de, des abus d'attitude, des mises en quarantaine d'élèves, ça peut concerner les adultes aussi, des brimades exercées en direction de certains élèves, des raquettes beaucoup plus subtiles qu'on a commencé à détecter il y a 25 ans, mais on n'y croyait pas à l'époque. Pas des raquettes à l'argent, mais des raquettes au devoir, ou les raquettes au cartable, faire porter son cartable. J'ai connu un jeune de 16 ans, là, dans une classe relais que j'ai suivi, parce que c'était un jeune champion d'arts martiaux. Comme à l'époque, je pratiquais un peu, bon, j'avais un point avec lui de lien. Il était assez marrant, celui-là. Il était assez étonnant, il parlait pas, puis il frappait de temps en temps. Alors, il a passé un an dans cette classe relais où ça s'est très bien passé, hein, pour lui. Mais c'est vrai que dans son histoire à lui, il pouvait exercer comme ça une pression, un chantage, des menaces. Et quand j'ai repris son dossier à la PJJ, j'ai consulté les établissements pour, je ne sais pas combien, 7 je crois. Il était passé par 7 établissements. Voilà quelqu'un qui se faisait porter son cartable sans que personne n'ait pratiquement rien dit depuis qu'il était tout petit. Il se faisait amener son cartable, emmener son cartable... On lui apportait les sandwichs à table. C'était le genre, vous savez, quand il s'asseyait à table, il y en avait qui lui amenaient spontanément à manger. Aucune pression apparente. Hein. Mais alors, vous savez, il y a tout cet équilibre qui se jouait entre je lui demande quelque chose, j'interviens ou pas, et puis non. Donc il s'était construit sur 6 à 7 ans une personnalité telle que quand il arrivait dans un établissement, tout le monde le savait déjà. Et donc il arrivait précédé de son auréole, d'une certaine façon, qui faisait que, bon, il pouvait déjà fonctionner, quoi. Il était labellisé, puis il l'utilisait. Il n'était pas si... On a pu le contrôler, hein, parce que c'était une classe relais assez exceptionnelle qui avait eu la chance inouïe, je ne l'ai pas vu souvent, il y avait une directrice qui faisait énormément de théâtre dans la maison, alors elle avait monté tout un tas d'activités, et des classes théâtre, des classes ci, des classes là, donc elle n'avait pas appelé ça la classe relais, elle avait appelé ça la classe, je ne sais plus moi, 3 bis, je ne sais pas comment, elle s'appelait pas relais. Elle faisait des activités comme les autres. Elle avait le même statut que les autres de cette classe. Et elle avait obtenu à temps plein une chef de service de la PJJ dans l'établissement, qui était à côté de son bureau. Vous rentriez dans le hall et vous aviez à gauche la principale et à côté de la principale le bureau de cette chef de service de la PJJ, une femme, deux femmes, qui faisaient un duo, mais alors extraordinaire et qui laissait rien passer, quoi. 5 minutes de retard, c'était toute une histoire. Le gamin n'était pas là, chez lui, une heure après, il y avait quelqu'un. Bon, des trucs qui passaient. Alors, elle a stabilisé sa classe relais, on n'a rien de temps. Les parents n'en voulaient pas, ils manifestaient pour qu'il n'y ait pas cette classe relais dans l'établissement. L'année d'après, ils se rappelaient déjà plus qu'il y en avait une. Ça, c'était dans les années, fin des années 90. Alors, toutes ces expériences m'ont amené à définir la violence comme ça. D'une manière plus large, je vous la donne, mais c'est sur le site, hein. Vous trouverez. Nous entendrons par violence des actions ou des attitudes violentes, ou ressenties comme violentes. Donc je respecte ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire usant directement ou indirectement de la force, mais aussi de la contrainte, ou les permettant. Vous voyez la nuance, les permettant. Vous n'agissez pas directement, mais vous le permettez. En anglais, c'est la notion de « abuse and neglect ». Violence par négligence. Ou encore des actions ou des attitudes ouvertes ou diffuses de malmenance institutionnelle. Alors ça m'avait amené à dire, en reprenant Peter Smith, d'une manière super simple, la violence c'est l'abus sous toutes ses formes. Et là je reprends, tiens, mon ami Loïc Villerbu, qui dirige l'Institut de criminologie de l'Université de Rennes, où je faisais des cours là, depuis 5 ans, avec lui. Et il donne une définition sur l'abus. Alors l'abuse, retenez cette notion. Parce que moralement, puisqu'on parlait d'éthique au début, là, il faut avoir ça en tête, quoi. Est-ce que vous abusez de... Alors, abus réitéré, violence institutionnelle, on est dans la violence institutionnelle, hein. Abus réitéré de titre, de fonction et de genre, gender, de classe d'âge ou de sa force. Donc, il commence à y avoir de la violence institutionnelle quand on est dans un abus réitéré de son titre, de sa fonction et de son genre. On est un homme, par exemple, et pas une femme. De classe d'âge, ça va là pour les élèves, hein, et de sa force. Mais ça peut être de sa force psychologique, hein. Ça, c'est la définition de Villeurbanne qui m'a beaucoup servi. Alors, on arrive à la problématique des violences institutionnelles sur cette échelle que je vous donne rapidement. Si vous voulez bien, vous irez sur le site, hein, c'est une échelle comme ça. Vous avez les violences pénales. Alors, j'ai repris une échelle américaine des années 30 que j'ai transformée. La violence qui a été faite par Arnold, l'échelle, pardon, faite par Arnold Buss, celui qui a inventé la machine à envoyer des chocs électriques, là, vous savez, qu'on retrouve dans I comme Icare, qui est connu, qui a servi à Milgram pour les expériences de mesure de la violence, qui a été réutilisée, vous l'avez vu à la télé il n'y a pas longtemps, sans doute, hein. Vous savez, quand vous demandez à des gens d'envoyer des chocs électriques, il n'y a pas d'électricité, mais ils croient qu'il y en a, et ils vont dépasser le seuil mortel assez vite quand même, s'ils sont commandés par des experts universitaires ou des professionnels ou des gens, enfin bon, qui leur disent attention, vous devez le faire, ils le font. On oublie de vous dire aussi que quand même, ils le font, mais attention, hein. Il y en a qui ne commencent pas l'expérience quand ils ont compris. Ça, on ne nous le dit jamais. Ceux-là, ils ne veulent pas y aller. Il y en a qui partent tout de suite. Heureusement. Parce que ceux qui commencent à 60%, ils vont jusqu'au bout, c'est vrai. Issus, moi j'ai les originaux des films de Milgram, hein. Donc je les ai regardés X fois pour mes cours. Donc vous voyez les gens qui suent, qui font bon. Mais ils font ce qu'on leur dit, quoi. Vous savez, c'est l'obéissance destructrice, il appelait ça, Milgram. Alors, les violences pénales, c'est quoi? Enfin, les violences, vous les connaissez. Buss a fait une échelle, ça va des violences physiques directes, atteintes physiques, coups et blessures, on connaît, verbales directes, les atteintes verbales, injures et insultes. Il faut savoir que dans le code pénal, il y a beaucoup de choses, hein, sur l'injure. J'ai fait des cours sur l'injure parce que ça m'a passionné. Parce que c'est dans le code pénal, l'injure. Justement, il y a quelqu'un là qui me demande une intervention parce qu'il a dit à... C'est en Belgique, hein. Il a dit à quelqu'un, il a dit, va te faire, à un agent de sécurité, il lui a dit, va te faire foutre. Bon, inculpé, etc. Et alors il veut démontrer que va te faire foutre, ce n'est pas une injure. Je lui dis, ça, c'est un peu difficile quand même. Il me demande ça à moi en plus, je lui dis, j'ai fait des cours là-dessus, alors bon. Surtout que foutre, c'est le sperme. Hein. Dans les injures, il y a toujours ça. C'est une histoire de mec et une histoire de toute puissance masculine dans le rapport aux autres, et à la femme en particulier. Chercher dans toutes les injures, il y a toujours ça derrière. Bon, alors c'est intéressant d'étudier les injures de ce point de vue-là. Parce que quand vous avez des gamins en particulier qui passent par ça, bon, d'abord ils n'ont rien d'autre à dire. Ensuite, les coups viennent à la place des mots, comme on disait nous, il y a 20 ans. Les coups viennent à la place des mots chez les plus agités. Donc, bon, qu'est-ce qu'on peut faire au mieux? Allez, je vais vous dire, moi, quand je peux, j'organise des ateliers d'injures. Ben oui, et je les fais, y compris avec des adultes. Et c'est incroyable le vocabulaire très limité. Vous avez certainement lu, par exemple, je pense à Colombe. On a fait une expérience il y a 15 ans. À Colombe, ils ont 200 mots, les gamins. Dans les injures, moins de 10. La plupart d'entre eux, c'est 3 à 5. Pas plus. Il y a une subtilité à mettre en place, c'est les faire transcender le mot. Ironiser là-dessus. Vous introduisez du jeu, de l'humour, un tout petit peu, de la transformation. S'ils décollent de ça, ils vont plus utiliser leur truc. Quand ils ont compris ce que je viens de dire, le foot c'est du sperme, t'en fais quoi? Ah bon? Il est malade celui-là? Mais... Donc, violence physique directe, verbale directe, psychologique directe. Atteinte, alors les Américains appellent ça comme ça maintenant, les Anglo-Saxons, atteinte haineuse et harcèlement. C'est dans notre code pénal aussi, hein. C'est tout ce qui est atteinte haineuse, bon, le racisme, mais tout ce qui est de l'ordre du gender aussi, hein. Etc. Atteinte haineuse et harcèlement. Et vous passez au deuxième volet, les violences d'attitude, qu'on pourrait appeler par rapport aux violences visibles, les violences invisibles. Physique indirecte, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'exclusion, du rejet, mais implicite. Par exemple, on s'est amusé à observer des classes avec la complicité, enfin amusé, c'est un grand mot, avec la complicité des professeurs. Et c'est vrai que c'est facile de voir les systèmes de communication dans une classe comment ça fonctionne et comment ça dysfonctionne. Vous pouvez vous apercevoir qu'il y a des élèves, dans certains cas, qui ne seront jamais interrogés dans aucune classe pendant une semaine et demie. Personne n'a entendu leur voix depuis 2 semaines, par exemple. Bon, alors, il ne s'agit pas d'en faire un cinéma, mais dire, bon, tiens, comment ça se fait, lui, là? Des fois, on ne se rappelle même plus son nom. Je parle des violences institutionnelles à Bruxelles et je cite une anecdote qui est quand même lourde, qui est un peu violente, vous allez l'entendre. Il y a une copine à nous, là, qui travaillait au lycée professionnel à la Garenne-Besançon. Elle s'aperçoit qu'il y a un moment qu'il y a un élève qui ne vient plus, il n'est plus dans la classe. Bon, au bout d'un moment, elle demande à tout le monde, mais qu'est-ce qu'il est où, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne s'était inquiété, il était absent depuis 15 jours, hein, quand même, à l'époque. Ben, il était mort, et personne ne s'en était rendu compte. Il s'était suicidé sur l'autoroute A15, il avait sauté du pont. Donc, contact avec la mère, qui était toute seule, c'est le fils unique, enfin, un truc d'enfer. Puis ils ont fait quelque chose, mais 15 jours après, quoi. Hein. Mais personne n'avait vraiment... Vous voyez, mais j'incrimine personne, hein, mais voilà ce que ça donne. J'en ai d'autres, des bonnes comme ça. Alors, violence physique indirecte, verbale indirecte, vous voyez, je suis déjà dans mes violences institutionnelles. Verbale indirecte, c'est tout ce qui est incivilité, puis tout ce qui est de l'ordre du mépris. Le mépris, c'est-à-dire, ça nous amène aussi au psychologique indirect, les atteintes par défaut, le refus de reconnaissance. Vous savez, ces espèces de... Je parlais des groupes au début, ces micro-fixations qu'il peut y avoir entre un enseignant ou des groupes d'adultes ou les élèves entre eux, et qui fait qu'il y a des gens que vous supportez moins que d'autres, quoi. Vous leur donnez la parole ou pas, puis il y en a à qui vous ne donnez pas la parole. Ou il y en a qui vous gênent, quoi, il faut l'admettre. Bon, si on ne travaille pas un tout petit peu, il n'y a pas besoin de faire des psychanalyses intensives, hein, un tout petit peu son transfert et son contre-transfert, c'est sûr qu'on peut guère y arriver. Quand vous ressentez un truc comme ça, il faut vous dire, ah tiens, bon, il faut que j'y fasse attention. C'est un coefficient de lecture de ma relation. Avec un tel, ça marche moins bien. Donc, faut que j'y pense. Alors là, on est dans ce deuxième volet qui arrive sur les violences, vous voyez, les violences institutionnelles, qui fait que vous allez pouvoir tirer le fil. Et j'ai été frappé quand j'étais, par exemple, au Japon, j'ai été frappé par la violence de l'école au Japon, alors que ce n'était pas feutré, hein, mais la violence du système scolaire. Et puis en fait, quand je suis revenu en France, je me suis dit, on n'est pas très loin d'eux. C'est la violence de la réussite à l'école, quoi. Au Japon, vous ratez ça, ça donne des trucs terribles. Hein. D'abord, ils sont en ce moment, là, il y a 7 heures de plus, donc ça fait 7 et 9, 16. Oui, donc ils vont arriver à la fin de la journée, enfin, la fin. Première partie, parce qu'après ils vont de 17 à 19h30, ils vont dans des juku, tous, jusqu'au bac, dans des écoles jusqu'à 20h. Hein. Le samedi, ils sont à l'école. Hein. Les vacances, un mois sur 2 mois, il y a un mois d'école. Tant qu'ils n'ont pas passé le bac, c'est tout le temps, tout le temps. Et puis ils s'y ramènent un bulletin scolaire, mais alors, c'est une honte et une humiliation pour la famille. Donc j'ai entendu à la télévision du Japon, au Japon, s'était mis à parler de ça parce que ça devenait un vrai problème. Ça a développé un phénomène qu'on a chez nous maintenant, hein. Le grand absentéisme, mais volontaire. Ils appellent ça au Japon Ikikomoru. Ikikomori. Ikikomori, c'est les gamins qui restent 3 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans dans leur chambre avec un ordinateur ou sans et qui sortent plus. Mais avec la complicité tacite des écoles et des parents. Ce que j'entendais à la télévision. C'est-à-dire, bon, ils sont plus ou moins pris en grippe par le prof, par les classes, ils rentrent et ils sortent plus, les parents les nourrissent, mais tout le monde est d'accord pour dire, on n'en parle pas. Donc il y a eu une grande campagne en 2006 de « faut arrêter avec ça, quoi, faut arrêter les mises en quarantaine », parce que c'est un peu comme ça au Japon. C'est-à-dire, il y avait des méthodes qui consistaient à, pas partout, mais quand même, assez fortes, on vous désignait le mauvais élève. Alors j'ai dit, bah dis donc, le Japon c'est quelque chose, et puis en fait de quelque chose, quand je suis revenu, je me suis dit, on a des pratiques parfois qui ne sont pas très loin de tout ça. Vous savez, les discussions à propos de la Finlande. Donc au Mexique, j'étais avec une Suédoise et une Finlandaise. Alors ouais, les notes, ils ne savent pas ce que c'est. Les notes, c'est autre chose, ça n'est pas concerné. Hein. Donc, et puis elles avaient l'air aussi bien que les autres, hein, profs de fac, mais elles sont passées par là. Quoi. Des systèmes sans notes, sans compétition. Bon, elles étaient aussi bien que nous, hein, apparemment. Et donc, Quand on est dans ce schéma, vous voyez tout de suite ce que je tire et ce à quoi, il me semble, du point de vue du chef d'établissement, on peut et on doit faire attention parce que dans la violence et dans les transgressions, il y a quelque chose qui va toujours payer, c'est que l'adulte ne doit pas, ça peut lui arriver, il peut déraper, dire un truc, ou avoir une attitude violente aussi, entre guillemets, mais la règle, la loi, elle s'applique à tout le monde, aux adultes comme aux élèves. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur demander de faire ce qu'on ne fait pas. On est bien d'accord. Donc, par exemple, dans nos pédagogies à nous, on s'excuse si on est en retard. Un truc simple. Et puis, quand il y a des trucs plus compliqués en pédagogie institutionnelle, dans nos groupes de travail, il y a des amendes. On arrive en retard, on paye. Et puis, quand on est responsable d'un groupe, et si on arrive en retard, alors là, c'est une autre paire de manches. Donc, c'est des petites choses toutes simples, mais qui fait que si vous êtes dans ce que j'ai appelé au début, un, la synergie, deux, un cadrage de règles bien claires, et que vous vous l'appliquez, vous êtes encore ce qui fonctionne toujours, je pense. On a fait aussi, il y a un bouquin sur mon site, on a fait toute une enquête sur l'autorité entre 2000 et 2004. C'est pas vrai que l'autorité a disparu, elle n'a pas disparu du tout. Simplement, elle repose là-dessus. Ne rien dire que nous n'ayons fait. C'est une phrase de Fernand Houry, ça. Ne rien dire que nous n'ayons fait. Je ne demande pas aux autres de faire ce que je ne fais pas. Ce qui est souvent le cas, quand même, vous le savez. Vous savez, je ne parle pas de la cigarette, par exemple. Les polémiques autour de la cigarette, je ne vous raconte pas. Y compris à la fac de Nanterre. Il y a un prof qui s'obstinait à fumer le cigare jusqu'à l'an dernier, en cours. Il a fallu que le médecin-chef saisisse la police. Vous imaginez? Parce que l'autre, il disait, je ne m'arrêterai pas, je fumerai jusqu'au bout. Je ne sais pas quel bout, d'ailleurs. Mais c'était normal. Lui, il fumait. C'était sa liberté élémentaire de fumer. Alors, quelle transgression? C'est là qu'on va distinguer étroitement. C'est déjà 42, il ne faut pas que je traîne trop. On va bien distinguer les sanctions et les transgressions. Quand je dis sanctions, alors je vous renvoie aussi à Trapp, Gagarine. Il y a eu tout un travail qui a été fait à l'époque, je vous le cite, vous avez peut-être entendu parler. On avait inventé au début des années 90 ce qu'on appelle le CESAC, suivi éducatif des sanctions, et le CEREC, suivi éducatif des récompenses. Petit groupe de profs autour du chef d'établissement, on a banni l'école du champ scolaire, et on a remplacé l'école par des travaux dirigés. Il y avait des gamins qui avaient des centaines d'heures de colle quand je débarque la première fois là-bas en 89-90. Mais des centaines d'heures. Ils auraient mis leur vie entière à finir l'école. Alors, remplacé par des travaux dirigés, alors un travail donné par l'enseignant où il y a eu le problème, où le CPE, enfin l'endroit où c'est passé, et les personnes présentes, le problème. Le travail est fait le samedi matin, les permanences en heures supplémentaires sont surveillées par des enseignants, le travail est corrigé par celui qui l'a donné, et objectif suprême dans certains cas, attrape ça s'est fait, et ailleurs aussi, classement des meilleurs travaux en fin d'année. En 2 ans de temps, on est passé de dizaines de collés à moins de 10 tous les samedis matins. En 2 ans de temps. Avec une campagne à la clé, dans les classes, dans le grand, etc. Des trucs relativement simples. Le carnet de correspondance, etc. Alors vous avez tout un système qui va avec ça. Comment sont délivrées les sanctions? Alors, je vous donne là l'échelle que j'ai sous les yeux. On pourrait faire un cours rien que là-dessus, une conférence rien que là-dessus. Ça commence par... Vous voyez, j'ai une échelle de 11 points, par exemple, sur la dynamique des sanctions. Sanctions, punitions. Alors, ça commence par la réprimande orale. Je vous raconte ce qui a été mis en place sur le terrain au bout de 2-3 ans. 1, la réprimande orale. 2, travail scolaire supplémentaire. Toujours corrigé, Si vous accordez aucune importance à un truc qu'on donne à faire, 3. Inscription sur le carnet de correspondance. Ça fait un peu mécanique, comme je dis là, il faudrait que je commente. 4. Heures de retenue délivrées et gérées par un adulte ou l'équipe CESAC. 6. Consigne. Consigne du CPE. Le CPE prend l'affaire en main et suit un peu plus particulièrement l'élève. Voire document 7, il y a tout un document, comment on fait, etc. Cet établissement avait aussi institué un tutorat inter-enseignant. Les nouveaux avaient un tuteur adulte. Et il y avait c'est là qu'on a établi, en 91, je crois, les premiers livrets pour les nouveaux enseignants. un livret, quand j'arrive, l'accueil, ce qui se passe, qu'est-ce que je fais. Alors 6 consignes CPE, 7 consignes le samedi matin, avec ce qu'ils appelaient à l'époque, mais bon, on ne va pas l'appeler comme ça légalement, mais bon, les TIG, travail d'intérêt général, par écrit, etc. Bon. 8, exclusion temporaire, externe ou interne, d'abord interne. Je suis complètement pour, moi, les exclusions, mais internes. Alors, ça nous a amené à créer, à Mantes-la-Jolie ou ailleurs, des SAS, dans les années 87-88, des espèces de permanences. J'avais même, avec un groupe, une fois, créé dans un établissement, une permanence pour ceux qui, lundi matin, ne voulaient pas aller en classe. C'était la classe de ceux qui ne voulaient pas faire la classe, avec un enseignant qui ne voulait pas faire la classe avec eux. Ils étaient piégés, totalement piégés, ils se trouvaient avec un prof, tac, 5, 6, 8. Et qu'est-ce qu'on va faire? On ne fait pas la classe? Ah ben, on ne fait rien du tout, parce qu'on est là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, on attend, etc. Impossible, il ne reste pas une heure. Hein. Ils demandent à faire un truc, ou ils réfléchissent, ou ils sont énervés. Alors, il y en a qui étaient énervés, je me rappelle, à une séance un lundi matin. J'avais vu ça en Angleterre, et j'ai repris ça en France. Bon, ils attendaient de passer leur rage. Puis quand ça allait mieux, ils rentraient avec un billet en classe pour le symbolique, le passage. Y compris pour venir, il fallait qu'ils aient un billet. Mais quelqu'un qui ne veut pas travailler, on ne va pas l'obliger à travailler. Non. On attend l'opportunité pour lui dire, il faudrait peut-être que tu t'y mettes. Ça ne va pas trop ce matin, mais... Comme me disait un chef d'établissement à Liverpool, c'est le lundi matin. Hein. Il y en a, ils ne se mettront pas au boulot avant cet après-midi. Hein. Je l'avais trouvé d'un coup, lui. J'étais avec une chef d'établissement qui avait enseigné en Angleterre, qui était ma traductrice. Elle me disait, ah ben dis donc, lui, il est... Hein. Puis elle avait travaillé en Angleterre, mais elle était quand même sidérée. Puis finalement, en réfléchissant, je me suis dit, mais il n'a pas tort. Hein. Alors ça, c'est l'exclusion temporaire interne et externe. Alors externe, pareil, justifié comment, etc. Neuvième niveau, conseil des professeurs. Vous savez, si vous faites des conseils de discipline, on a fait une recherche dans les années, début des années 90, il y avait des départements qui mettaient les élèves dehors sans conseil de discipline, et il y en avait d'autres qui faisaient 30 conseils de discipline dans l'année. Donc il y avait des élèves qui étaient tout le temps dehors, au point que le ministère avait fait une discussion nationale, j'étais avec un procureur de mes amis, et c'est nous qui présidions cette discussion. On était 150 pour discuter sur comment changer ce genre de choses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire. On ne peut pas faire des conseils de discipline toutes les semaines. Ça perd toute sa valeur. Donc, instituer des conseils avant le conseil de discipline. Tout le monde le fait d'ailleurs aujourd'hui presque, hein, pratiquement. Une attaque. Au Mexique, oui, on serait sorti. Hein. Bon. Alors, 9e niveau, conseil des professeurs. 10e niveau, réunion de l'équipe éducative de la classe. Alors, il y a des documents qui vont avec, hein, que les professeurs avaient. Et puis, vous arrivez au conseil de discipline en dernière instance, qui doit fonctionner comme un véritable conseil à dimension juridique. Hein. Vous le savez, mais j'ai vu dans les années 90, ça a commencé au Mureau. J'ai vu arriver dans des conseils de discipline au Mureau des avocats. Les familles, ça commençait comme ça, se faire représenter par des avocats. Alors quand vous rentrez là-dedans, vous êtes dans un truc, vous êtes obligé de jouer le jeu, quoi. Hein. Donc il faut le prévoir, ça. C'est-à-dire rester dans l'organisation au sens des textes. Alors, important de ne pas mélanger dans l'ordre des transgressions ce qu'on appelle de ne pas mélanger les sanctions et les punitions. Alors les punitions, c'est le code pénal, c'est-à-dire ça s'applique, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Donc mais les punitions, ça vise à toucher la personne dans son fonctionnement même. Tandis que quand on est dans les sanctions qui comportent deux volets, positifs ou négatifs, sanctionner, ça peut être, vous savez, faire remarquer un comportement transgressif, faire une remarque, mais ça peut être aussi applaudir. Le même qui a fait 2-3 bêtises pendant le premier mois, on ne l'a pas entendu en novembre-décembre. On ne pense pas souvent, juste avant les vacances de Noël, à lui dire, ah dis donc, je tenais quand même à te dire devant tout le monde, hein, je tenais quand même à dire que tu t'es bien saisi et chapeau pour ton attitude parce que j'avais un peu des doutes au mois de septembre, là c'était pas net, mais octobre, mais novembre-décembre, j'ai pas entendu parler de toi. Et on l'applaudit, par exemple. Ça c'est une sanction d'accompagnement, c'est des choses très fortes, Je suis des écoles, hein, plutôt pédagogie institutionnelle en ce moment. Bon, bah, c'est vrai que, par exemple, les anniversaires, un geste ou une attitude, je pense par exemple à des gamins là, dans un lycée qui ont participé à un convoi humanitaire. Bon, ils ont été cités, pas décorés, mais presque, par l'établissement, quoi. En faisant attention à ce que les autres n'en profitent pas pour hein, les prendre pour des. Comment on dit là? Comment ils disent? Pour des gogoles, hein. Donc, il faut faire attention à tout, mais c'est vrai que c'est important de qualifier dans les deux sens, hein. Et quand on est dans les sanctions, c'est vrai qu'on est automatiquement dans ce qu'on appelle les réparations. On n'est plus dans les punitions, on est dans la réparation. Donc, une transgression, en termes d'établissement scolaire, ça se répare. Ça se répare par les excuses, par des travaux écrits, par exemple un contact avec les parents, par une discussion, par une analyse. J'ai trouvé ça très intelligent. Une fois, j'étais dans un établissement où on demandait aux élèves d'analyser leurs transgressions. Donc, ils avaient 2 heures pour plancher là-dessus. Écrire et expliquer, y compris, on les aidait pour qu'ils comprennent bien et qu'ils écrivent. J'ai un très beau travail que je n'ai pas ici d'ailleurs sur Nique ta mère. Ça, c'était au collège Chénier à Mantes-la-Jolie. L'élève, il a eu expliqué ce que veut dire Nique ta mère, qu'il avait dit à une CPE. Le voilà qui se retrouve à la direction avec sa feuille blanche et son truc, et j'ai le travail. Je le lisais dans mon truc sur la violence, sur les injures. Nique ta mère, assez extraordinaire ce qu'il raconte. Enfin, ce qu'il raconte, ce qu'il essaye de comprendre de Nique ta mère, quoi. Il sait bien que c'est un truc sexuel, il dit nique ta mère. C'est quelqu'un qui doit essayer de rentrer dans quelqu'un d'autre. Et quand c'est la mère, c'est bien plus grave. Enfin, il raconte des trucs. C'est pour ça sans doute qu'on a inventé ce mot, qui, à mon avis, c'est un jeune maghrébin, doit être d'origine arabe. Qui dit. Et alors, il y a 2 pages comme ça, mais alors étonnante, hein, ça vaut le coup d'être lu et analysé, parce que c'est hallucinant. Il a tout compris d'ailleurs, puis après, il ne va plus le dire. Alors, il remet son travail qui sera noté. Et il rentre dans sa classe. Alors, je l'ai gardé, c'est un monument, je l'ai gardé avec moi, ça. Alors, c'est vrai que les transgressions, donc, vous voyez, à la limite, si vous êtes chef d'établissement, si j'étais moi chef d'établissement, je devrais ou j'essaierais d'avoir en tête toutes les semaines, toutes les transgressions de la semaine. Pas seulement dans l'établissement, hein. Alors, les classes, bien sûr, mais les couloirs, les toilettes, il faut faire très attention à l'organisation des toilettes. Il y a des pays, vous savez, vous n'approchez pas des toilettes, hein. Et puis les toilettes, c'est filles-garçons. Alors que j'ai vu encore à l'époque au Mureaux, il y avait des toilettes pour tout le monde. Les filles devaient y aller à trois. Il y en a une qui tenait la porte, l'autre qui était devant, pendant que celle qui y allait était à l'intérieur, hein. Il n'y avait plus de serrure, plus rien, des trous. Il fallait se mettre devant pour bon. C'était un truc d'enfer, ces toilettes. En Allemagne, vous approchez à 3,50 m des toilettes des filles, on vous tombe dessus tout de suite, hein. Ça dure pas longtemps, hein. Adultes ou élèves. L'établissement comme réseau symbolique. Et je conclue, bon, et on va discuter un peu quand même. Alors, quels sont les facteurs de stabilisation d'un établissement? J'ai essayé de les répartir, toujours dans mes enquêtes internationales. J'ai répertorié 11 types de facteurs qui rejoignent complètement le diagnostic de sécurité en y ajoutant ce que je viens de dire en partie. Alors, les 11 facteurs, je les énumère plus qu'autre chose, je ne vais pas trop les commenter. Il y a 3 effets. Il y a ce que j'appelle l'effet social, l'effet établissement et l'effet pédagogie. L'effet social, c'est, bon, de quel type d'établissement on parle? On l'a vu au début, c'est bien expliqué dans le diagnostic là. C'est vrai que si vous êtes dans un petit collège, et suivant les bâtis, les locaux, comment ça se passe, bon, ben, ça ne sera pas pareil que dans un grand lycée. Si vous êtes dans un ensemble scolaire de 2000 élèves, ce n'est pas pareil que, bon, cette année, je suis passé par Pontarlier, par exemple, un gros lycée, mais à Pontarlier, relativement cool. J'étais dans la Creuse il y a un mois, là, avec Berthelot. Qui s'occupait du groupe Violence, là, que j'ai retrouvé là-bas, que je connais depuis Trappes, depuis très longtemps. Donc on a passé la journée et la soirée ensemble. Inspecteur d'académie, il est là-bas maintenant, et le chef d'établissement d'un petit collège tranquille. Tranquille dans la Creuse, hein. Le département où il y a le moins de violence en France, me dit le chef d'établissement à table. Mais il me dit, avec un CPE, ils forment une paire dans une équipe de direction très intégrée. Mais il me dit, on n'arrête pas. Parce qu'il me dit, c'est pas parce que c'est tranquille qu'il faut laisser couler. Et ils sont sur la brèche. Le matin, ils sont devant la porte, dans la cour. Dès qu'il y a un truc, alors il se passait des choses sous le préau, pendant que je discutais avec le chef d'établissement en arrivant le matin. Et le CPE était immédiatement sous le préau. Il repère les groupes, il connaît, il y a les autres, il y a un affichage ici, il y a des organisations. Bon, ils sont sur la brèche en permanence, et c'est comme ça, me disent-ils, que bah oui, ça va bien. Ils n'ont pas de grosses transgressions, quelques petits problèmes, mais pas du tout les phénomènes de violence que rencontre par exemple le lycée de centre-ville. Pourquoi ? Ben parce qu'ils sont tout le temps. Mais pas du tout, c'est pas du harcèlement. Hein. Et pour eux, c'est pas la fatigue non plus. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est normal. Bon, ils se baladent, et puis, tiens, qu'est-ce que tu fais là ? Il y a quelqu'un dans les escaliers. Ben, tiens, qu'est-ce que tu fais dans les escaliers, là ? Bon, un truc simple. Alors, dans l'effet social, il y a les types d'établissements. Architecture, taille, équipement, financement. Financement, pourquoi ? Je vous indique un truc qu'on avait fait à Trappes et ailleurs. On n'est pas obligé de le faire, hein, mais... Par exemple, à Trappes, hypersensible, des violences d'enfer, quand je suis arrivé en 90. Fallait voir l'état du collège, hein, Gagarine. Il y avait des hordes de 15 gamins qui rentraient cagoulés, qui explosaient les portes des classes, vous voyez, dans un grand couloir qui faisait 100 mètres. C'est vrai que c'était tentant de courir et de taper dans les portes. Bon, on a stabilisé ce genre de choses, mais d'une manière, de plusieurs manières, mais en particulier un truc qui a été fait, qui a surpris tout le monde, avec l'aval des enseignants. La dotation horaire globale était telle qu'on avait des moyens à l'époque, hein, faut le reconnaître, hein, quand même. Et au lieu de faire le dédoublement de classe comme ça se faisait, plus de dédoublement. On a monté les effectifs de classe entre 30 et 35, mais pour faire quoi ? Des tout petits groupes de 4 à 5 et des tutorats pour les plus défavorisés, les plus en problème, à la rentrée, pendant un mois et demi. Chacun son tuteur ou par groupe de 3 à 6, avec des groupes parallèles. Payé, tout payé. Hein. Et après une grande discussion avec les enseignants, ils ont dit « Ok, d'accord ». Et j'ai jamais entendu parler de problème parce qu'ils avaient plus de 30 élèves. Mais parce que c'était pris en charge en parallèle et en complément comme ça. Pour vous dire que faut tout imaginer quand on est dans un établissement, il faut tout remettre en question. Il faut laisser partir les trucs. On voit si on peut le faire après. Type d'établissement, donc effet social, lien, ville, partenariat. Là, vous avez des trucs importants pour les collèges. J'ai vu des collèges dans les meilleurs moments avant 2000, je dis avant 2001, parce que la politique de ce gouvernement, c'est vrai, a introduit tellement de sécuritaires et de sécurité que c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Moi, je travaillais avec la police à Mantes. Hein. Le commissaire de police venait direct dans les réunions de chefs d'établissement. Mais c'était un commissaire de police qui était, il y en a qui l'appelaient le shérif, mais le type pouvait s'arrêter au milieu des cités, monter au troisième étage, il connaissait la famille, personne ne lui disait rien. Et il redescendait, il avait dit des trucs à la famille. Allez-y maintenant. J'étais à, c'était où là, Champigny. J'ai suivi le lycée professionnel de Champigny, là, Bois-l'Abbé, je vous dis pas la crise, 3 ans entre 2002 et 2005. Le commissariat est en face de l'établissement. Là, j'ai vu, vous voyez ce que j'ai vu, ça m'a coupé le sifflet, c'est le cas de le dire. L'année d'après, on a arrêté, le chef d'établissement est parti. J'ai vu la BAC passer, sortant du commissariat. Ils ont sauté par-dessus le portail pour aller... séparer des gamins qui mimaient une bagarre dans la cour. Ils ont sauté par-dessus le portail en plein jour, vous voyez ce que ça a donné, tout l'établissement mobilisé, tous les gamins des environs, pendant 3 jours, un cirque, ils ont commencé à casser les chaises pour prendre les tubes, pour faire des... Enfin, j'en passe. Donc, les rapports étaient tels... Alors, la chef d'établissement qui était là, elle a vu ça, elle s'avance, ils repartent par-dessus le portail. Hein. Elle traverse, elle va au commissariat... La nouvelle commissaire qui venait d'arriver ne lui a pas offert une chaise, elle l'a laissée debout et lui a dit « J'ai rien à vous dire, madame, rentrez chez vous, vous n'avez qu'à tenir votre établissement, moi je fais ce que j'ai à faire ici. » Sans, et voilà. Donc elle est revenue à moitié en larmes. Bon. Alors que deux ans avant, ça discutait, ça circulait, on faisait « Bon, j'en passe. » Donc, vie associative interne-externe, liaison justice-police, ça peut être très intelligent. Et puis, lien parents, les parents. On laisse souvent les parents de côté. On ne sait pas travailler avec les parents en France. On est un des pays d'Europe qui travaille le moins avec les parents. Il faut au moins les aviser. Une année, j'ai fait par exemple le tour. Il y avait une classe très difficile qu'on m'avait demandé de repérer en tant qu'intervenant. Je travaillais avec l'équipe de classe. Je suis allé voir toutes les familles une par une. Je leur avais dit que je passerais. Et je passais en fin d'après-midi. Donc je les ai vues une par une. Mais on a stabilisé complètement la classe dans l'année. Mais je n'allais pas leur raconter des trucs, hein, j'allais simplement montrer. Voilà, la classe, on fait ci, on fait ça. Bon. Il y a les profs, on va essayer de votre enfant. Et les enquêtes internationales ont montré une chose simple, c'est que les parents les plus défavorisés, ils s'intéressent tout de même, et pas et cependant à leurs enfants. Et si vous dites à une mère, si vous posez des questions à la mère sur sa scolarité, son rapport à l'école, elle, j'ai des travaux là-dessus, ça la fait bouger dans sa tête. Et pratiquement directement, vous allez voir l'enfant bouger. Bon, je vais m'arrêter. Alors, je continue. L'effet établissement. À quelle heure c'est, on finit, au fait? C'est là, maintenant? 10 heures, non? Allez, encore 2 minutes. Donc, l'effet social, l'effet établissement. Alors, l'effet établissement, ben, c'est ce que j'ai dit, la direction. Le projet d'établissement, vous le faites avec qui, comment? C'est trop souvent des projets que personne connaît ou que quelques-uns connaissent. La vie scolaire, fondamentale pour moi, hein. Alors, règlement intérieur, tout ce que j'ai dit. Les socialisations, les sanctions, l'échelle des sanctions, elle doit être connue des parents. Les enseignants, est-ce qu'il y a une stabilité? Alors, par exemple, si vous arrivez quelque part, les Mureaux, fut un temps, Jules Verne, c'était 60% de rotation tous les ans. Alors, c'est sûr que là, vous avez un premier pas à faire vers une certaine stabilité, parce que ça continue, hein, dans certaines zones actuelles. Les élèves, d'où ils viennent? Comment ils sont? Quel est leur niveau scolaire? Est-ce qu'on maîtrise leur niveau scolaire d'entrée? L'enseignement. Alors là, qu'est-ce qu'il y a comme enseignement? Et alors, on arrive à ce que j'appelle les effets pédagogie. L'enseignement, les pédagogies spécifiques. Est-ce qu'il y a du soutien ou pas? Est-ce qu'on travaille en direction des plus défavorisés? Parce que là, je le dis, et on l'a pu le prouver dans des recherches ou sur le terrain, un élève qui fait 2 points de progrès dans une matière, s'il est soutenu, si on lui dit, on le tient tranquille pour le restant de l'année. Et ce que disait très bien la chef d'établissement de Trappes, qui était une ancienne de l'entreprise, hein. Elle venait de l'entreprise, cette chef d'établissement de Gagarine. Elle disait, bon, et j'étais tout à fait de son avis, il y avait 480 élèves, mettons, enfin 500. 500 élèves, il y en a 100 qui ne savent pas trop ce qu'ils font là. 50 qui peuvent poser problème, mais il y en a 20 seulement qui vont nous faire des ennuis. Et sur les 20, il n'y en a peut-être que 10 qui n'ont pas leur place ici et qui vont essayer de déstabiliser l'établissement. Et j'ai jamais trouvé des pourcentages supérieurs. Quand il y a une agitation, de la panique et que tout est mélangé dans l'établissement, c'est qu'on n'a pas contrôlé, bon, ce qu'on a appelé à l'époque le noyau dur, hein, ce qu'on appelle toujours le noyau dur, mais c'est vrai que ça se repère. Et il y a des actions spécifiques à mettre en place. Voilà. Alors je m'arrête, parce que comme vous voyez, je suis parti tellement que je pourrais parler jusqu'à ce soir, mais quand même. Donc, j'avais pratiquement fini. J'avais pratiquement fini parce que quand vous reprenez ce que j'ai dit, en allant faire un tour sur le site, c'est vrai qu'il y a une politique institutionnelle d'établissement qu'on peut tenir. Mais vous voyez que ça se fait en groupe, en collectif. Mais en même temps qu'il y a une vigilance presque paranoïde de la vie scolaire à tenir. En fin de journée, un chef d'établissement doit pouvoir résumer la journée d'une manière simple. Merci.